Bonjour Didier Tabuteau, responsable de la chaire santé de Sciences Po à Paris, co-directeur de l'Institut Droit et Santé, a animé à l'Institut d'études avancées de Nantes une conférence sur le thème « Les nouveaux défis de la politique de santé ».
Petite question, qu'est-ce qu'une politique de santé ?
Tout simplement, bon, je crois que politique de santé, c'est une politique publique, donc... Comment assurer une égalité la plus approfondie possible face à une des plus grandes inégalités de la vie, qui est l'état de santé. Et cette politique de prévention, de soins, de sécurité sanitaire, de protection de la santé, pour reprendre les termes du préambule de la Constitution, c'est sans doute, à mon sens, l'un des cœurs du pacte social. Enfin, de l'idée qu'il y a une collectivité qui se réunit, qui s'assemble et qui choisit des efforts communs pour des buts partagés. Ces efforts communs, c'est d'organiser des politiques de prévention, d'organiser un système de santé et de le financer de la façon la plus équitable possible. En tout cas, c'était l'esprit des constituants de 1946 et même d'ailleurs des auteurs du programme du Conseil national de la résistance de mars 1944, dans lequel un système complet de sécurité sociale était un objectif majeur au moment où, dans un programme de façon assez exceptionnellement intitulé « Les jours heureux », alors qu'on était... en pleine guerre, imaginer en deux parties, d'une part comment gagner la guerre et ensuite comment vivre heureux ensemble. Donc la sécurité sociale était un élément clé et dans cette sécurité sociale, ou à partir de cette sécurité sociale, en dérivant de cette sécurité sociale, mais également en amont de cette sécurité sociale, il y a la politique de santé, puisque la santé était inclue dans la sécurité sociale. Ce qui n'était pas complètement évident. On aurait pu faire le choix d'une politique d'État pour la santé, et d'une politique de sécurité sociale pour les retraites. Enfin, mais le choix a été fait de constituer la sécurité sociale avec comme l'une des trois composantes, ou quatre composantes, la façon dont on compte, majeure, qui est l'assurance maladie. Alors, cela dit, je suis sur la période contemporaine, si j'ose dire, enfin, sur les 70 ou 80 dernières années. Si on s'interroge sur la politique de santé en prenant encore plus de distance ou de recul, ce qui est intéressant, qu'est-ce que l'on voit ? Ben, on voit que pendant très longtemps, la santé n'était pas un élément des politiques, au sens des politiques publiques. La santé, c'était la relation individuelle, la relation privée, la destinée. Les questions de santé relevaient du dialogue entre le malade et le prêtre, le rebouteux, l'empirique, le charlatan, puisque ce sont les termes qu'on utilisait au XVIIIe siècle. Et c'était une relation personnelle, c'était la destinée, c'était largement la main du destin, la main de Dieu. Chacun était face à sa santé. Michel Foucault le montre bien, à partir du XVIIIe siècle, la question de la santé devient un problème, une question de nature politique, dans la mesure où on commence à compter un petit peu les malades, les décès, à comparer d'un bourg à l'autre, d'un village à l'autre, etc. Et à partir du moment où on compare, on commence à rentrer dans la notion de population, la santé des populations, et plus simplement la santé comme destinée individuelle. Et la santé des populations donne progressivement naissance à ce qui s'appellera au départ l'hygiène publique et qui s'est appelée au cours du 19e siècle la santé publique. Et là, on a une première forme de politique de santé qui se constitue, qui est une politique de santé, en fait, très largement de prévention, de lutte contre les épidémies, mais une lutte contre les épidémies qui n'est plus celle du Moyen-Âge ou des siècles où la lutte contre les épidémies, c'est fondamentalement le maintien de l'ordre public. Enfin, ce sont les lazarets, les quarantaines, pour éviter la diffusion de l'épidémie. À partir du 19e siècle, il y a une conception beaucoup plus forte de santé proactive, pas simplement de défense pour éviter qu'il y ait la contagion. Et cette notion de santé va se développer, d'ailleurs avec une école française qui est très en avance. Autant on sera en retard, la France n'est pas un pays de santé publique. Et pourtant, les pères fondateurs de l'hygiène publique, de la santé publique, étaient des Français. Alexandre Parent du Châtelet était considéré par Chadwick, peu enclin, peu suspect en tout cas de défendre les constructions françaises à tout prix, était considéré comme le père de l'hygiène publique, ou en tout cas comme un père fondateur majeur, Louis-René Villermé également, c'est-à-dire que les... et évidemment Louis Pasteur après. Donc on a au XIXe siècle de très grands médecins, de très grands intellectuels, Pasteur n'était pas médecin, mais qui vont développer une conception de la santé publique avec, par exemple, l'imagination de l'enquête épidémiologique. C'est Parent du Châtelet qu'on surnommait l'explorateur des cloaques, parce qu'il était allé voir comment ça se passait, comment, quels étaient les terrains les plus propices au développement des maladies pour essayer de les contrer, etc. Donc il y a toute une démarche d'investigation, de construction de la santé publique moderne qui s'élabore autour de médecins et d'intellectuels ou d'ingénieurs, de chimistes, de scientifiques français. Et puis quand il va falloir passer à l'acte, c'est-à-dire transformer cette science naissante en politique, puisque c'est votre question, eh bien, on va être complètement bloqué, parce que la société française au XIXe siècle, c'est une société de... En gros, c'est le rapport tiers, la prévoyance individuelle, la responsabilité individuelle, que l'on a toujours en arrière-fond dans les politiques de santé. Hein. Il faut responsabiliser l'assuré social, il faut absolument le faire payer, parce qu'autrement, il va abuser. La sécu, c'est bien, mais en abuser, ça craint. Tout ce cadre général que l'on a, bah, il est en germe au XIXe siècle avec cette doctrine tiers de la responsabilité qui fait qu'on ne développera ni les assurances sociales en France, on va être sur la prévoyance individuelle. Il faut économiser, il faut mettre de côté pour se protéger contre les risques de la vie, qui est évidemment une absurdité économique et sociale, mais c'est quand même sur cette doctrine qu'on va se développer. Et la santé publique ne se développera pas plus parce qu'on est viscéralement attaché à la propriété privée et qu'il n'y a pas de politique de santé publique qui ne porte atteinte à la liberté privée, à la propriété ou à la liberté individuelle. Quand on interdit de fumer dans les lieux publics, on porte atteinte à une liberté individuelle. Quand on veut lutter contre les logements insalubres au XIXe siècle, pour éviter qu'il y ait des foyers épidémiques, il y aura une loi en 1850, après l'épidémie de la deuxième grande épidémie de choléra de 1849 en France, mais on sera très réticent à le faire parce qu'on touche au droit fondamental, la propriété privée. Lorsque je suis dans ma propriété, je fais ce que je veux et l'État n'a pas à s'y intéresser. Donc tous ces facteurs vont être des obstacles majeurs au développement d'une politique de santé en France. Et on sera par exemple, si on compare les grands pays européens, la loi de 1902, qui est la grande loi de santé publique, dont est né en 1953 le code de la santé publique. Donc on est dans le cœur du réacteur de la politique de santé. La loi de 1902, on est les derniers en Europe à adopter une loi sanitaire. Vous en aviez une en 1874 en Suède, 1875 je crois en Angleterre, en Hongrie, en Italie, enfin... Voilà, dans les années 1880, vous avez un bouillonnement de lois sanitaires, alors qu'en France, on a développé l'hygiène publique. On ne développe pas de politique de santé publique, il faut attendre 1902. Et encore, la loi de 1902 ne sera pas appliquée. En fait, c'est une victoire à la Pyrrhus du parti de l'hygiène, comme on l'appelait au Parlement à l'époque. Et si vous prenez par exemple la vaccination obligatoire, fascinante, qui est une grande politique de santé publique du 19e siècle, elle commence dès les années 1820 en Bavière. Enfin, tous les pays d'Europe vont la développer. En France, il faut attendre 1902. Et encore, pourquoi est-ce que d'ailleurs cette vaccination obligatoire, qui est dans la fameuse loi de 1902 que j'évoquais, pourquoi est-ce qu'elle est établie ? Parce qu'on tire les enseignements d'une défaite magistrale qui est la défaite de 1870, où l'armée française, face à l'armée russienne allemande, subit une défaite terrible, qui n'est pas une défaite militaire, qui est une défaite sanitaire. Parce que l'armée française n'a pas été vaccinée, l'armée allemande l'a été, il y a une épidémie de variole, il y a 20 000 morts d'un côté, 300 de l'autre, d'après Gérard Jorland dans son magnifique livre sur une société à soigner. Voilà, on est dans un pays qui va inventer la santé publique, pas seul, mais qui va beaucoup y contribuer, qui va être très en avance, et qui ne va pas le développer, parce que quand on passe à l'acte, quand on veut faire de la politique, bah on va buter sur les éléments de la doctrine française, de la prévoyance, de la protection de la propriété privée, du retard à l'émergence du syndicalisme en France. La loi Le Chapelier fait qu'on sera un des dernier pays à avoir le syndicalisme, l'action, le mutualisme. Le mutualisme en France est très en retard sur l'Angleterre ou sur l'Allemagne. Et donc voilà, on a cette construction qui fait que la politique de santé, on est un petit peu à l'origine d'une belle construction de la politique d'hygiène publique. Et puis dans le même temps, un passage à l'acte qui est très difficile, malgré les initiatives parlementaires, ça se fera très peu. Et en fait, il faut attendre 1920. Et c'est très révélateur de notre façon de fonctionner. 1920 et les suites de la terrible épidémie de grippe espagnole de 1819 qui conduit à la création du premier ministère de la Santé. Et le ministère Jean-Louis Breton, le premier ministre de la Santé, ministre de l'hygiène publique, sera supprimé deux ou trois ans après. Il ne naîtra véritablement qu'en 1945. Et ça, c'est une des caractéristiques de la santé dans le champ du politique en France. C'est que dans un pays qui est quand même un pays extraordinairement jacobin, avec Richelieu, Napoléon, la création des grandes administrations, les grands corps de l'État, les services publics. Les services publics, on en a fait partout, de l'éducation nationale, nationale à la SNCF, en passant par EDF, etc. L'histoire française administrative s'est construite sur les services publics, sauf dans un domaine, la santé. Il n'y a pas d'administration de la santé en France. À la fin du 19e siècle, quand on compare la France et l'Angleterre, il doit y avoir 8000 agents dans les services de santé en Angleterre au niveau national, il doit y en avoir 10 en France. On est dans un décalage complet. Et les services de santé en France vont se développer dans les années 1950, très modestement. Les premiers services qui vont vraiment se développer, d'ailleurs, c'est les services de l'assurance maladie dans le cadre de la démocratie sociale, donc pas dans le cadre de la régulation étatique. C'est dans le champ de la sécurité sociale qu'il y aura des caisses d'assurance maladie qui vont développer des compétences avec des médecins conseils, avec des spécialistes du travail sur les prestations de santé. L'administration de la santé va se développer très modestement. Il faut quand même se souvenir qu'entre les deux guerres, entre 1418 et 1939-45, la fondation Rockefeller a financé des phénomènes en France parce qu'on était un pays sous-développé en matière d'administration de la santé pour lutter contre la tuberculose. Une fondation américaine qui finançait des services en France. C'est ça, la construction. Cette construction se fait donc tardivement, à partir des années 1950-1960, très modestement. Et en plus, très vite, on rentre dans la période où on n'investit plus dans l'État. L'État devient trop gros, trop rejeté, etc. Donc il pouvait effectivement avoir beaucoup enflé dans certains domaines, mais en santé, ce n'était pas le cas. Mais la santé va pâtir de cette incapacité à construire des administrations dans l'époque récente. Ça conduira à quoi? Au drame du sang contaminé, de l'hormone de croissance, aux grandes crises et scandales de santé publique et de sécurité sanitaire. En fait, si on regarde le moment où la réflexion sur la politique de santé, il faut développer la prévention, les soins, etc., se traduit par la construction d'institutions, de services pour mener cette politique, parce qu'une politique, il faut aussi des moyens pour la mener, eh bien on s'aperçoit que, véritablement, ça commence dans les années 60, avec les ordonnances Debré qui créent les CHU et les médecins hospitaliers temps plein. Je rappelle qu'avant, les médecins hospitaliers étaient pour l'essentiel des médecins libéraux qui avaient des vacations à l'hôpital, il n'y avait pas de médecins temps plein. Donc c'est 1958 où, pour la première fois, l'État organise un véritable système hospitalier avec des centres de recherche. Assez vite, d'ailleurs, la France va s'habituer très facilement à ce qu'on appellera en 1970 le service public hospitalier. Mais c'est 1970, c'est pas 1870. Donc on est dans un schéma dans lequel ça se met lentement en place via l'hôpital public. Il faudra attendre après les années 1990 pour la maîtrise des dépenses, parce que là, il y a des équilibres macroéconomiques, il y a le fait que les prélèvements obligatoires sont très élevés et que donc tout ceci rentre dans une régulation d'État. Et donc là, l'État va essayer de progressivement intervenir sur la régulation des dépenses, ce que l'on voit évidemment aujourd'hui, où on a l'impression que l'État est omniprésent en santé. Et puis enfin, il y aura malheureusement les drames de sécurité sanitaire, les milliers de victimes, et l'État qui va investir dans la santé publique ce qu'il n'avait jamais fait depuis le 19e siècle, en dépit de parents du Châtelet, Villermé et Pasteur, et créer les fameuses agences pour la santé publique, les produits de santé, l'alimentation, l'environnement, le nucléaire. Enfin, aujourd'hui, il y a un ensemble d'agences qui sont un petit peu les fers de lance de la sécurité sanitaire et de la politique de santé publique de l'État, mais qui sont des structures dont la plus ancienne date de 1992, donc des structures récentes. Voilà comment la politique de santé en France a eu du mal à trouver sa place. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est de rapprocher deux de ces versants que j'évoquais, la politique d'assurance maladie et la politique de santé publique. Les deux sont aujourd'hui déconnectés et ça pose d'énormes problèmes au système. C'est sans doute un des défis majeurs de notre système. Il faut recoller les morceaux, ça s'est construit comme ça, on a l'histoire que l'on a, mais aujourd'hui on ne peut plus avoir un hôpital piloté par l'État et puis une médecine de ville, des médecins libéraux qui sont pilotés par l'assurance maladie qui est un autre pouvoir. Non, on a un très gros sujet de construction, ce qui fait qu'on a une politique de santé qui est un petit peu désarticulée. Je prends l'image, quand on en parle avec les étudiants, d'une voiture qui aurait deux volants, deux pédales d'accélérateur, deux pédales de frein. Bon, l'expérience montre que ce n'est pas extraordinairement efficace. Aujourd'hui, il faut bien voir que sur la politique de santé, les réformes récentes mais successives et assez convergentes ont pour conséquence que les partenaires sociaux ont une influence extrêmement faible sur l'assurance maladie obligatoire. C'est-à-dire que la sécurité sociale de 1945, avec la légitimité de la démocratie sociale, l'élection des représentants aux caisses d'assurance maladie, a évidemment été battue en brèche d'abord en 1967 quand on a supprimé les élections, mais elles ont été rétablies en 1982-83. Donc il y a de nouveau eu une légitimité forte aux organisations syndicales dans l'administration des caisses. Et puis elles ont été supprimées avec le plan Juppé en 1996. Et aujourd'hui, on voit pas de volonté de les rétablir. Donc on est dans un schéma dans lequel... Premier élément, la légitimité de l'élection fait que a disparu et donc la légitimité des partenaires sociaux dans l'assurance maladie est moins forte.
Didier Tabuteau, responsable de la chaire santé de Sciences Po Paris, est l'invité du magazine.
Deuxième élément, la création de la CSG en 1991 a progressivement permis de substituer à des cotisations sociales, donc qui sont du salaire différé négocié par les syndicats, donc avec là encore une logique syndicale forte dans le financement, par un impôt qui est la CSG. Et donc là encore, capitis diminutio de l'influence des organisations syndicales. Et puis il y a en 2004 la réforme de la loi d'Oust-Blazy qui va retirer le pouvoir dont disposaient les organisations syndicales à travers le pilotage de l'assurance maladie, la présidence notamment du conseil d'administration de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette présidence qui reposait sur une majorité de gestion partagée pendant toute la première partie de l'histoire de la sécurité sociale par, en gros, Force ouvrière et le patronat avec la CFTC et la CGC. Et puis, à partir du plan Juppé, c'est la CFDT qui obtient la présidence de l'assurance maladie dans une nouvelle majorité de gestion avec le patronat et toujours la CFTC et la CGC. Alors, cette présidence du conseil d'administration était importante parce que, par exemple, c'est elle qui permettait au président, donc issu des organisations syndicales, de négocier la convention médicale, donc de négocier l'organisation de la médecine de ville. La convention médicale, c'est une espèce de convention qui remplace de la loi et du décret et qui organise la médecine de ville pour tout un chacun. Ce pouvoir fondamental leur a été retiré en 2004. En 2004, la loi d'Oust-Blazy a remplacé les conseils d'administration des caisses par de simples conseils qui n'ont plus que des avis à donner et a confié à un technocrate, le directeur de l'UNCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le pouvoir de négocier et de signer les conventions. Avec les médecins, avec les infirmiers, avec les kinésithérapeutes, etc. Donc, troisième capitis diminutio, et alors là, très très forte, parce que c'est la gestion même des caisses. On peut ajouter à cela un flux assez continu de diminution du pouvoir des conseils d'administration, puis des conseils des caisses, au profit des directeurs des caisses, et donc d'une technostructure dirigée par le directeur de l'UNCAM. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, sur l'assurance maladie, les partenaires sociaux ont très peu d'influence. C'est un système qui est piloté par une technostructure extrêmement puissante, qui n'est pas identifié à l'État. Très curieusement, c'est entre le face-à-face, l'État et les partenaires sociaux, qui a toujours existé depuis 1945, démocratie politique versus démocratie sociale, c'est pas l'État qui l'a emporté sur les partenaires sociaux. C'est un troisième pouvoir qui a émergé, qui est un pouvoir assez technocratique, qui est une technostructure très puissante, qui dépend de l'État, puisque le directeur général est nommé par l'État, mais qui, une fois qu'il est nommé, a une très très grande autonomie. Et donc voilà, on a un jeu à trois aujourd'hui, avec des partenaires sociaux qui sont quand même plutôt sur le destrapontin, un État qui essaie de s'asseoir à la table, mais qui ne le fait pas véritablement, même dans la loi Touraine de janvier 2016, chapitre qui s'appelle « Alignement stratégique de l'assurance maladie et de l'État », est très très modeste. Et puis une technostructure qui est extrêmement puissante dans ce sens. Et donc c'est pour ça que je disais qu'on a toujours une division forte entre l'État et l'assurance maladie en termes de pilotage de cette évolution. Alors cela dit, il faut aussi voir, ça on rentre un petit peu dans la cuisine qui fabrique les plats de la politique, mais il faut quand même voir si on prend plus de recul que la construction de l'assurance maladie, c'est un élan de solidarité, génération après génération, absolument sans précédent. Ce que nos grands-parents, parents ont consenti à faire collectivement, en consacrant une partie très importante de leurs ressources, certes on est en période de croissance, mais c'était quand même une très importante partie de leurs ressources, qui a été apportée via les cotisations sociales et les impôts pour financer un système de santé solidaire à travers une prise en charge qui est aujourd'hui, qui pose des problèmes, mais qui a considérablement cru. Il faut se souvenir qu'en 1945, ce n'est pas l'âge d'or de la sécurité sociale. Et le remboursement des soins en 1945, c'est 50%. C'est-à-dire c'est très 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 peu. C'est monté jusqu'à 80% en 1980, et depuis ça s'effrite, et je crois que c'est important et que c'est inquiétant, parce que ça s'effrite de façon pas homogène. Il y a un vrai problème. Mais cela dit, on est quand même passé de soins qui représentaient 2,5 points de la richesse nationale, c'est-à-dire une petite part en 1950, à quelque chose qui aujourd'hui représente de l'ordre de 9 points. Et dans ce mouvement donc, de développement de la dépense de santé, au profit quand même de toute la population. Dans le même temps, on a été capable d'augmenter le taux de prise en charge de ces dépenses de 50% à 80%. C'est-à-dire qu'il y a un double effet. On a considérablement augmenté la dépense et on a considérablement augmenté le niveau de remboursement pour les gens. Le médecin, dans les années 50, on le voyait quand on était dans un milieu modeste, très rarement, et en général, c'était extrêmement grave. Aujourd'hui, le médecin, c'est pas vrai pour une petite partie de la population qui a des difficultés d'accès aux soins, mais pour l'immense majorité de la population, il y a un accès aux médecins généralistes qui est possible, sous réserve de déserts territoriaux et d'autres questions. Mais financièrement, la sécurité sociale a quand même permis de rendre l'accès au système de soins nettement plus favorable. Il ne faut pas oublier que le nombre de médecins a été multiplié par 7 grâce à la sécurité sociale, par 7 entre 1945 et 2010. Pour moi, il y a deux politiques qui sont fondamentalement universelles sur le champ social. Il y a l'école et il y a la santé. Deux qui s'adressent à toute la population et qui doivent être strictement égalitaires pour toute la population parce que c'est les fondements de la construction du pacte social. La santé, c'est quelque chose d'extrêmement culturel. C'est-à-dire qu'une recette qui marche ici, dans un pays, ne marchera pas forcément dans l'autre. L'élément fondamental, ce n'est pas l'élément économique, ce n'est pas l'élément juridique, ce n'est pas l'élément institutionnel, c'est l'élément culturel. On a une approche par rapport à la prévention, par rapport au comportement à risque, par rapport aux soins, par rapport, voilà, qui varie. Et quand je dis d'un pays à l'autre, c'est d'une région à l'autre, voire au sein d'une région, d'un territoire à l'autre. Et donc, un système de santé qui est très satisfaisant pour une population, si vous l'imposez dans un autre pays, il sera absolument intolérable pour l'autre pays. Donc voilà, donc, ce qui fait que le meilleur système de santé du monde, je trouve que ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est qu'une population se reconnaisse dans son système de santé et le trouve bon. Et le système de santé est apprécié, d'une manière générale, moyennant les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui d'égalité d'accès aux soins et de déserts médicaux ou de territoires qui sont difficilement accessibles. Mais le service public de l'assurance maladie et le service public des hôpitaux sont les deux services publics qui ont le plus de soutien dans la population dans les enquêtes depuis 25 ans. Donc c'est quand même, ça me permet de dire que c'est un bon système, parce que quand la population s'y retrouve, je trouve que c'est un indicateur très fort. En revanche, le comparer au système allemand ou au système espagnol, c'est vraiment tout à fait autre chose. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que quand on prend des comparaisons très générales comme celle de l'Organisation mondiale de la santé, parce que là, c'est multicritère, enfin, voilà, on peut en faire dire beaucoup de choses. Quand on regarde les analyses médicales publiées dans les journaux scientifiques médicaux, on s'aperçoit que pour les prises en charge sur tel type de cancer, sur tel type de... Donc pour le système de soins, on a des résultats qui sont très satisfaisants, c'est-à-dire qu'on est dans les 3-4 premiers, on est assez bien placé d'une manière générale. En revanche, on est très très mal placé, pour tout de suite contrebalancer, pour la mortalité évitable, la mortalité entre 20 et 65 ans. La France n'est pas un pays de prévention, et donc on a de très gros efforts à faire là-dessus.
Qu'est-ce qui préside à la fermeture des petits hôpitaux ?
Le problème, c'est que on ne sait pas véritablement, comment dire, construire une politique de santé territoriale, les ARS essayent de le faire, qui permette un petit peu de partager les choses. C'est-à-dire qu'on se rend compte que des établissements qui vont avoir des problèmes de recrutement, avoir des problèmes de qualité de soins, etc., eh bien, vont créer des inégalités sociales très fortes, parce que la partie de la population la plus favorisée ira se faire soigner ailleurs, et l'autre partie... Et donc je crois que la question, c'est moins celle de la fermeture des établissements que de celle d'un développement d'hôpitaux en réseau, qui font qu'on n'a pas forcément tout au bon endroit, mais tout peut être pris en charge, quel que soit l'endroit. Et que, par exemple, quand vous avez un petit hôpital qui s'associe, ou qui éventuellement, d'ailleurs, fusionne avec un CHU, comme il y a des exemples en France, on s'aperçoit que, oui, il n'y a plus forcément la chirurgie sur place, mais il y a des moyens pour accéder à 20 ou 30 km à un centre plus avancé. En revanche, on peut avoir des consultations de cancérologie qu'on n'aurait jamais eues dans un petit établissement. Je crois que c'est plutôt dans cette démarche. Alors, le problème, c'est que si on le fait sans participation de la population, sans des éléments de démocratie sanitaire, sans des relais d'information, si on le fait un peu brutalement, bah évidemment, comme la santé, c'est un risque majeur, ça suscite beaucoup d'inquiétudes et d'opposition. Et par ailleurs, il y a des décisions qui n'étaient pas fondées, qui ont pu être prises. Hein. Mais voilà, je crois que la transformation je crois qu'il y a des fermetures d'établissements, de services d'ailleurs, plutôt de services que d'établissements, qui ont été faites un tout petit peu rapidement quand même. Donc ça, c'est vraiment un sujet d'évolution du système de santé. Mais il faut bien voir que ce qu'on évoquait tout à l'heure, le double pilotage, ressurgit là-dessus. Parce que dans bien des cas, Le manque de l'hôpital est d'autant plus problématique que la médecine de ville n'est plus présente. Et que le pilotage unifié de la médecine de ville et l'hôpital est fondamental pour que tout ce que la médecine de ville peut faire, ce soit fait par la médecine de ville, et que l'hôpital ne soit là que pour ce pourquoi il est indispensable. Et ça, ce travail-là, aujourd'hui, alors là, la France a beaucoup de mal à le faire, parce qu'encore une fois, il y a deux pilotes.
Merci à Didier Tabuteau, responsable de la chaire santé de Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages dont Démocratie sanitaire, les nouveaux défis de la politique de santé, paru aux éditions Odile Jacob, pour sa libre participation à ce reportage réalisé avec la complicité de l'Institut d'études avancées de Nantes.
Pas tant tellement répondu à la question d'ailleurs, j'ai une petit remords si vous me donnez encore 30 secondes. Sur les partenaires sociaux, je vous ai répondu sur l'assurance maladie obligatoire, mais j'avais un deuxième temps de réponse. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les partenaires sociaux réinvestissent et même surinvestissent la protection complémentaire. Or, l'un des problèmes majeurs du système, c'est le fait qu'on a une protection complémentaire qui est beaucoup trop présente. Aujourd'hui, pour les soins courants, c'est-à-dire hors hospitalisation, hors affection de longue durée, la protection complémentaire peut représenter 50% de la dépense. En tout cas, l'assurance maladie obligatoire ne rembourse pas plus de 50% des soins courants. Et là, vous avez un problème absolument considérable, parce que les partenaires sociaux retrouvent du pouvoir, par exemple à travers l'accord national interprofessionnel et la complémentaire d'entreprise obligatoire, pour les salariés, qui est en place depuis le 1er janvier 2016. Mais cette protection complémentaire, c'est une destruction de l'assurance maladie obligatoire, parce qu'elle est beaucoup moins solidaire, beaucoup plus inégalitaire que l'assurance maladie, que la sécurité sociale. Elle n'est pas financée de la même façon, elle ne bénéficie pas aux personnes. Et en particulier, elle va laisser de côté les chômeurs de longue durée et les retraités qui ne bénéficient pas de la protection complémentaire résultant de l'accord national interprofessionnel. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a, parce qu'il y a eu ce repli de l'assurance maladie obligatoire, une espèce de tentation de reconstruire une assurance maladie professionnelle, c'est-à-dire de revenir à Bismarck, alors qu'on avait fait tout le chemin pour en sortir et pour que ça ne dépende plus du statut, mais justement d'une solidarité nationale. Et la montée des complémentaires dans le remboursement des soins, à mon avis, c'est la plus grande menace qui existe sur la solidarité devant la maladie.